France Inter, le 18-20.
Roma sur Netflix exclusivement, mais primé Lion d'Or à Venise, en lice pour les Golden Globes notamment, chroniqué comme s'il avait été diffusé en salle. Et d'ailleurs, les chroniques sont dithyrambiques au point qu'on en a oublié le support en fait. Au début, ça a été toute une histoire et puis à la fin, c'est un film pour l'histoire du cinéma. Il y aura quand même un avant et un après, parce que les séries, ça on savait déjà, mais c'est la première fois qu'un film de ce calibre zappe les salles. Et maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, que les frères Cohen ont déjà mis la main sur le fourneau pour voir si c'était chaud, c'était en novembre, on attend un énorme calibre à suivre, c'est Scorsese avec De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. Bref, il y a du changement de paradigme dans l'air, même le Festival de Cannes se tâte pour réintroduire Netflix. Nous en France, nous sommes en butte à notre chronologie des médias qui protège les distributeurs, mais pas seulement. En France, les chaînes produisent, apportent de l'argent, Canal en tête toujours. Et c'est ça qui nous rend très particuliers, qui fait aussi que notre cinéma est riche. Mais vous, loin de toutes ces considérations, est-ce que vos pratiques ont changé? On parle de Netflix, mais aussi d'Amazon, et quand on parle de musique, et Deezer, et Spotify, et les autres, est-ce que vous avez changé vos pratiques? Est-ce que vous avez cessé d'aller au cinéma? Est-ce que vous avez cessé d'acheter des CD, par exemple? Est-ce que tout cela veut dire que la culture a été captée, voire capturée par Internet? Pour peu que vous soyez dans une zone blanche ou presque, c'est quand même un gros souci pour vous. Ou au contraire, peut-être que ces plateformes, justement, ont amené la culture jusqu'à vous, parce que là où vous êtes, le cinéma a été fermé depuis longtemps, et le plus souvent, la librairie aussi. Venez nous raconter tous comment vous faites, et soyez les bienvenus dans le Téléphone Sonne.
Fabienne Saint-Ès, le Téléphone Sonne.
Guillaume, bonsoir, c'est vous le premier, et bienvenue.
Eh bien, merci, bonsoir.
Bonsoir. Allez-y, donc, Guillaume.
Je vous explique. Bah, pour nous, notre usage familial, en fait, est assez simple. On possède un écran, mais qu'on n'utilise plus du tout pour regarder le média télé. On a effectivement une box branchée dessus et une console qui est utilisée surtout par les enfants. Mais on s'en sert surtout pour utiliser les systèmes de streaming payants. Nous, on paye pour les services aussi bien vidéo que musique. Et ça a complètement changé notre mode de fonctionnement de la culture, surtout la culture type multimédia. Mm-hmm. Par exemple, on n'achète plus du tout de CD. On pourrait croire que c'est une régression, mais en fait, on se retrouve à écouter des choses qu'on n'écouterait pas d'habitude, finalement, et que l'on apprécie. Et du coup, de fil en aiguille, on découvre des nouveaux artistes, on découvre des artistes éloignés dans d'autres pays qu'on n'aurait pas écoutés, des artistes locaux, des choses comme ça. Contrairement à tout ça, il y a quand même quelque chose qui résiste très fort chez nous, c'est plutôt le format papier. On est abonné à de la presse et on lit beaucoup, toute la famille lit énormément de bouquins, les enfants également. Donc le papier résiste quand même par rapport à ce média-là, on ne fait pas de lecture en ligne.
Et est-ce que vous allez toujours au cinéma, Guillaume, ou est-ce que les plateformes de cinéma, qu'on parle de Netflix, d'Amazon ou d'autres, peu importe, est-ce que tout ça a un peu mangé vos temps de cinéma ou pas?
Oui et non, en fait c'est pas du tout le même usage. Le cinéma va être le moment familial où on va aller prendre un après-midi ou une soirée pour aller regarder une histoire qui va durer. C'est en général des formats sur 2 heures. Le système streaming est beaucoup plus simple, surtout dans l'usage, qui fait qu'on a des formats courts, 40 minutes, 30 minutes, et ça va très bien, parce qu'en fait le vrai intérêt de tout ça, c'est on va choisir notre média, on va choisir le sujet, contrairement à une télé par exemple. Mais surtout, on va pouvoir décider quand on le regarde, l'interrompre, et puis également changer de format. C'est-à-dire, on va commencer sur la télé, puis finir sur une tablette ou sur un téléphone. Donc ça, c'est cette flexibilité qui est surtout intéressante dans le sujet.
Bah, Guillaume, vous allez être notre auditeur étalon pour tout le Téléphone Sonne, parce que vous avez tout balayé, et vous l'avez fort bien balayé. Et c'est intéressant, parce que ça ne veut pas dire que vous avez renoncé à ce que vous faisiez précédemment, mais visiblement, vous avez ajouté beaucoup de choses. Merci mille fois, merci beaucoup pour votre témoignage qui va bien nous aider à avancer, pour discuter ensemble jusqu'à 20h dans le Téléphone Sonne. Nathalie Sonnac est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du CSA, vous êtes spécialiste de l'économie des médias et du numérique. Et bonsoir Pascal Le Chevalier, vous êtes président de WhatsApp, agence de conseil média numérique. Et c'est vrai, tiens, je vais commencer avec vous, Nathalie Sonnac. C'est vrai que Guillaume, il balaye tout. Et effectivement, il est une espèce d'étalon des nouveaux usages, en fait, et de la manière très particulière qu'on a aujourd'hui de consommer de la culture, quel qu'en soit le support, en fait.
Alors, effectivement, il aborde toutes les possibilités qu'offre Internet, et c'est assez formidable d'entendre un auditeur ainsi. Ça rappelle que Internet nous permet, depuis une quinzaine d'années, d'accéder à une multitude de programmes, des fenêtres d'exposition sur tout support, tablette, téléphone, ordinateur, poste de télévision, que les plateformes aujourd'hui aujourd'hui, je pense qu'on va évidemment en parler, Netflix, mais d'autres encore sont des formidables relais de croissance pour le secteur de l'audiovisuel dans son ensemble, hein, radio, télévision et cinéma. Beaucoup d'innovation, beaucoup de diversité. Finalement, c'est le rêve de la culture 2.0. Pour autant, et là c'est le régulateur qui s'exprime, bien entendu ça pose un très grand nombre de difficultés. D'une part, notre système qui a longtemps été fermé et qui du coup subit cette ouverture un peu en restant sur ces plates-bandes ou en tout cas faisant extrêmement attention. Mais pour autant, ça pose des questions de droit,
on
de territorialité.
On reste sur nos plates-bandes ou on est arc-bouté sur nos plates-bandes? Ce sont deux choses très différentes, Nathalie Sonnac.
Je crois, vous avez raison. Je crois qu'on l'est resté pendant plusieurs années. Mais pour autant, on a beaucoup avancé. On a beaucoup avancé depuis 4-5 ans, notamment en matière de régulation. Et là, très récemment, avec la signature de la directive en novembre 2018, donc il y a deux mois. Et qui fait qu'on ouvre aujourd'hui, on se dit qu'il faut évidemment faire entrer dans notre champ de compétences de l'audiovisuel, eh bien, ces nouveaux acteurs qui ne sont plus si nouveaux que ça, les réseaux sociaux, les plateformes de streaming, les plateformes de partage de vidéos.
Une dernière question avant qu'on écoute Pascal Le Chevalier. Est-ce qu'on sait déjà que le temps d'écran a dépassé le temps de télévision ou pas? Est-ce qu'on a ces chiffres au CSA? Est-ce qu'on passe plus de temps désormais, une famille comme Guillaume par exemple, plus de temps sur les plateformes que sur la télé en elle-même?
Alors depuis plusieurs années maintenant, Médiamétrie fait de la mesure 4 écrans. Mmh. Ce que l'on dit beaucoup, il faut faire très attention, on passe effectivement en moyenne 3h52 derrière son écran, mais ça ne dit pas ce que l'on voit. Ce que l'on voit derrière un écran, c'est-à-dire que derrière mon ordinateur, je peux regarder du programme audiovisuel, qu'il soit en linéaire ou encore en délinéarisé comme du Netflix, comme Canal Play ou comme un service de télévision de rattrapage.
Pascal Le Chevalier, qu'est-ce qu'on sait de ce que Netflix, pour le coup, puisqu'on parle de ce dinosaure-là, a réellement changé? Est-ce que ça veut dire que les salles sont moins fréquentées ou en fait pas du tout? Et comme nous l'explique Guillaume, c'est juste que l'usage a changé. Les chiffres disent quoi en fait?
Alors, les chiffres et une étude récente qui date d'hier l'a prouvé. Déjà, le premier point, c'est que ce qu'on appelle l'OTT, Over the Top, en gros la SVOD et la VOD, vont dépasser les recettes du cinéma dans le monde cette année. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire que il y a quelqu'un qu'on oubliait au cours de toutes ces années, c'était le téléspectateur, le consommateur, l'internaute. Aujourd'hui, il reprend le pouvoir. C'est le pouvoir, comme l'a dit notre auditeur, de choisir quoi voir, quand le voir et sur quel support le voir. Et Netflix a eu l'intelligence ou l'opportunité de s'engouffrer dans cette brèche-là maintenant il y a plus de 15 ans, d'abord avec le DVD physique, puis avec la SVOD. Et donc finalement, il a accompagné l'évolution d'Internet, l'évolution des usages, et il sert ce que le public a aussi envie de voir, des programmes plus courts, des séries, d'alterner et de commencer pas à 21h mais peut-être à 20h, etc., etc.
Et commencer quand on veut, surtout, la vraie différence c'est celle-là. On n'est pas obligé de manger en regardant la télé, on peut attendre d'avoir fini pour le coup.
Et je crois que le choix du support est important. J'ai assisté au débat sur le film Roma, comme quoi fallait l'avoir vu sur grand écran. Donc il y a eu 3 projections en France, une à Lyon, une à Paris récemment et à Venise au moment du festival. Moi j'ai regardé sur mon téléphone portable.
Oula, voilà. Oulala.
C'est quand même une autre expérience et un autre plaisir.
C'est pas pareil, en effet.
C'est pas pareil,
mais je reviens sur ce que disait Guillaume. C'est pas le même usage, en fait. Moi, j'aime bien quand il nous explique, je trouve ça intéressant, que le cinéma, c'est la sortie en famille. Donc, on y va parce qu'on sait qu'on va au cinéma. Quand on regarde un film sur Netflix, c'est pas la même démarche, au fond.
Deux temps. Il faut aussi prendre en considération qu'aujourd'hui, il y a une population qui est en train de complètement basculer dans le hors télévision, ce sont les jeunes. Les chiffres sur les 15-34 de cette année en France, chiffre Médiamétrie, montrent qu'il y a des mois où on est à moins 20 minutes. Donc ça veut dire que ces 20 minutes-là, on les utilise à faire autre chose, peut-être même d'ailleurs de la télévision sur son ordinateur, mais on sort de l'écran télé et on consomme différemment et pour d'autres plaisirs.
Alors en même temps, Nathalie Sonnac, c'est vrai que ça a un côté un peu, c'est plus court, c'est plus ramassé. Enfin, des fois, on a envie de se dire aussi, oui, mais enfin, attendez, profitons aussi du film qui fait 2h30. Est-ce qu'on est vraiment obligé de coller nos vies trop stressées sur ce qu'on regarde finalement en streaming ou ailleurs?
Moi, je crois que l'important, c'est d'avoir cette possibilité qui est donnée au téléspectateur de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Et dans le même temps, être bien sûr qu'on accède toujours à une diversité.
Alors pas exactement tout ce qu'il veut, parce qu'il y a quand même des choses qui sont interdites d'accès, sinon il n'y aurait pas de piratage.
Alors qui sont interdites d'accès au temps zéro. Alors ensuite, étalé dans le temps, la nouvelle chronologie effectivement propose 17 mois après.
Ouais. Mais une fois qu'on a dit ça... On est passé de 34 à 17, peut-être 15 mois.
Exactement. Mmh. Donc, on a réduit ce temps. Et ce qu'il faut savoir, ce qu'il y a derrière, c'est que même si pendant longtemps, et je rejoins tout à fait l'analyse de Pascal, on n'a pas pris suffisamment en compte, pour ne pas dire nous n'avons pas pris en compte, allez, soyons fous, le téléspectateur, ça fait quand même plusieurs années, et depuis que l'on s'occupe notamment du numérique, qu'on sait bien qu'intrinsèquement, l'économie du numérique place au centre de l'écosystème le téléspectateur, l'internaute, le consommateur. Donc aujourd'hui, on le prend quand même nettement plus en compte, mais pour autant, il faut reconstruire ou penser à construire, en tout cas c'est ce qu'on tente de faire, une nouvelle économie de l'audiovisuel. Parce qu'il ne suffit pas de dire « je fabrique un film », il faut le financer, il faut des producteurs, il faut des diffuseurs, il faut des distributeurs, il faut beaucoup d'argent pour mettre sur, qu'on met sur la table. Et néanmoins, malgré toutes les difficultés ou le côté un peu dinosaure que peut avoir la France dans ce domaine-là, nous sommes le deuxième cinéma du monde en matière pas simplement du nombre de films, mais aussi du nombre de films qui bénéficient de palmes et de reconnaissance quant à la qualité des films qui sont exposés.
Et on va y venir aussi effectivement à ce qu'on perd et aussi ce qu'on gagne, en fait, notamment en matière de financement. Je voudrais qu'on écoute Jacques. Bonsoir Jacques.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Mais bien sûr, allez-y.
Très bien. Il se trouve que j'ai vu Roma hier soir à la télévision. Je l'ai vu sur un écran chez moi, qui est un peu grand, et qui me satisfait complètement. Mais Fabienne, ça va peut-être vous amuser, mais ma femme a un léger désaccord avec cela. Et donc, il m'arrive d'aller au cinéma. J'ai vu cet après-midi, dans ma journée culture, le film de Kore-eda. Excellent.
Eh ben, formidable. Vie, comme ça, vous faites les deux, en fait. C'est ça qui est formidable.
Oui, mais je reste partisan de plutôt d'une... de regarder les films ou les documentaires chez moi. Il se trouve que j'aurais pas pu le voir dans ma ville parce que c'est un film qui n'est pas si grand public et excellent, mais qui n'est pas très grand public. D'autre part, il y a un argument qui n'a pas été évoqué, c'est qu'en un mois d'abonnement avec une plateforme de streaming, je paye une place de cinéma. Et ça, c'est un élément qui me paraît à prendre en compte. D'autre part, la plateforme que j'utilise produit aussi ou achète des documentaires qui sont assez extraordinaires, mais qui nécessitent du temps. Comme Wild Wild Country ou O.J. Simpson ou Make a Murderer, qui sont vraiment des documentaires très très intéressants qu'on voit rarement à la télévision.
Et qui sont souvent autoproduits, d'ailleurs, tous ces documentaires. Et c'est vrai que, Pascal Le Chevalier, on a redécouvert le documentaire avec les plateformes, honnêtement. On avait un peu perdu ce hélas, d'ailleurs, parce que tous les documentaristes qui nous écoutent sont des gens qui ont du mal à travailler, qui ont du mal à vendre leurs documentaires. Pour ce genre de travail, est-ce que la plateforme c'est devenu le Graal en fait ou pas ?
C'est pas que c'est le Graal, c'est que le documentaire est constitutif de la culture. Alors là, c'est presque plus que de l'audiovisuel, parce qu'à travers le documentaire, on peut découvrir des choses absolument fantastiques, que les chaînes de télévision, pour des raisons de contraintes de programmation, ne peuvent pas mettre des documentaires. Et c'est pour ça qu'il y a quelques chaînes qui sont spécialisées dans le documentaire historique, et que ces plateformes ont permis d'aller chercher des sujets qui étaient parfois compliqués, sur la nature, sur la sauvegarde de la planète, sur Making a Murderer, qui est une introspection sur des grands crimes.
C'est très long.
Ce sont des véritables enquêtes d'investigation et qui mettent le téléspectateur, l'internaute, face à aussi des narrations qu'on ne connaît pas. Et ben, c'est un avantage, effectivement, de pouvoir ouvrir les yeux sur d'autres cultures, d'autres façons de voir les choses.
Alors, Nathalie Sonnac, on entend l'argument de Jacques, effectivement, sur le prix. Évidemment qu'un mois d'abonnement n'importe quelle plateforme coûte moins cher qu'une place de cinéma, mais en même temps, est-ce que le relais de croissance, c'est comme ça que vous appeliez ça tout à l'heure, que peut être une plateforme, permet quand même aux films de gagner de l'argent, réellement ? Parce qu'à un moment, le problème, c'est aussi celui-là. Ça nous satisfait, nous, consommateurs, mais est-ce que ça permet de faire des films derrière ? C'est une autre histoire.
Alors après, il y a beaucoup de questions derrière votre question, puisque derrière la question du financement, il y a la question de la variété du film, du type du film, de genre de film, de combien d'argent on met dans le film, et par après, il y a la question de qu'est-ce que les téléspectateurs ont envie de voir. C'est cette adéquation, c'est cette économie de marché. C'est bien ça, un marché, cette rencontre de l'offre et la demande. Derrière des plateformes comme Netflix ou Amazon Prime, elles posent néanmoins un certain nombre de difficultés. Elles proposent d'acheter, alors pardon, mais on devient assez vite technique en la matière, mais les conditions de financement, les conditions d'acquisition des droits de création locale sur ces plateformes ne sont absolument pas les mêmes que les conditions dans lesquelles les producteurs, notamment nationaux, travaillent. Elles achètent
Qu'est-ce qui est incompatible pour l'instant entre eux et nous, par exemple ?
Ils achètent tout droit sur tout territoire. Ça casse complètement la logique sur laquelle nous est fondé notre système, pas simplement nous français, mais nous européens, de la territorialité des droits. Ce qui fait que vous, quand vous avez la capacité d'acheter tout droit de diffusion en exclusivité, bien ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à ce film-là de toute autre façon, sur une autre plateforme. Vous voyez, lorsque vous parliez tout à l'heure, on évoquait, notre auditeur évoquait la question du documentaire. Mmh. Néanmoins, on a quand même une chance exceptionnelle en France d'avoir 26 chaînes de télévision qui sont accessibles gratuitement aux téléspectateurs. Ce qui fait que, finalement, le documentaire, on en trouve quand même sur Arte, on en trouve sur France 3, on en trouve parfois sur France 2, on en trouve sur RMC Découverte, mmh. dont la finalité est de faire du documentaire. Alors après, effectivement, on peut être plus astucieux, plus exigeant et en demander un peu plus et dès lors se tourner vers une plateforme de niche, c'est-à-dire spécialisée dans véritablement ce que vous avez envie de voir. Mais à partir du moment où un film ou un documentaire est en exclusivité sur une plateforme, ça veut dire que ça empêche le téléspectateur d'accéder aux autres films qui n'auraient pas les droits. Et ça, ça pose un vrai problème. Quand on a la capacité, comme Netflix, et c'est fantastique évidemment, c'est un service assez génial à 10 euros par mois, mais par exemple, aujourd'hui, Disney décide de fabriquer, de créer sa propre plateforme. Et donc, toutes les produits, les
donc
films...
Donc on n'aura plus jamais accès à aucun
ça
Disney.
Ça veut dire que vous n'aurez plus accès au Disney. Donc ça veut dire que si moi j'ai des enfants, alors ils vont envie de voir du Disney, parce que c'est quand même majeur en la matière, j'ai un abonnement Disney. J'ai envie de voir des films un peu plus mainstream, américains, je m'abonne à Netflix, et puis j'ai envie de voir du sport, je prends un abonnement Canal, ça revient à combien aux téléspectateurs? Donc vous voyez, c'est quand même ça quand il faut comprendre l'économie dans son ensemble, du point de vue de l'usager, et c'est tant mieux, c'est fantastique. Pour autant, il faut quand même reconstruire une économie, si j'ose le rappeler ainsi, c'est plutôt sujet un peu d'actualité, avec des acteurs qui bénéficient d'une asymétrie, un, réglementaire, deux, fiscale.
Pascal Chevalier, est-ce qu'effectivement ça veut dire qu'on n'a on a pas trouvé le modèle où chacun, pour l'instant, est en train d'essayer de grappiller sa part de gâteau, en fait, dans ce nouveau désert que sont les plateformes, parce qu'il y a encore un espace immense devant nous?
Alors il y a un espace immense, malheureusement, je pense qu'on a aujourd'hui, il faut quand même le dire, pris du retard en tous les cas en ce qui concerne l'Europe et en particulier la France, et que le chemin à parcourir pour rattraper ceux qui courent en tête va être compliqué, comme l'a dit Nathalie, pour des problèmes d'asymétrie fiscale que nous sommes obligés de respecter. Donc quand vous faites un petit business plan, que vous essayez de construire une plateforme, aujourd'hui vous avez des contraintes dès le départ auxquelles échappent ces grands acteurs internationaux. Et donc il y a un véritable enjeu qui est presque un enjeu politique aujourd'hui. C'est de dire, est-ce qu'on accepte cette domination qui a plein d'avantages, mais qui à un moment donné peut aussi devenir dangereuse parce que on va être dans un sens unique de distribution de la culture et du divertissement.
Et est-ce qu'on aurait les moyens de toute façon, pas seulement financiers, mais est-ce qu'on a les moyens de se battre contre cet énorme mastodonte? Alors on parle de ça, mais quand on parle des GAFA, on parle finalement de la même chose. Est-ce qu'on aurait les moyens de se battre? Est-ce que ça a du sens d'essayer de créer une sorte de Netflix à la française, en gros, comme on l'a beaucoup entendu ici et là, ou est-ce qu'on n'a pas les moyens de faire face à des mastodontes pareils, Pascal Le Chevalier, ou pas, ou Nathalie Sonnac, comme vous voulez?
Je pense que la question fait qu'il faut qu'on se donne les moyens. La question ne se pose
pas. Mais il nous le faudrait. Mais vous dites qu'il nous
c'est
le faut.
C'est indispensable.
Vous, c'est le CSA qui parle et vous dites qu'il nous faut un Netflix à la française.
En l'occurrence, c'est Nathalie Sonnac qui s'exprime. Et il nous le faut au niveau européen. D'ailleurs, de toute façon, si on regarde France Télévisions, fait des coproductions avec la RAI, avec la SDF. France Télévisions s'est associé avec TF1, avec M6 pour créer Salto. On voit bien que ça se passe aussi au niveau européen. Il y a 5 groupes audiovisuels publics du nord de l'Europe, j'ai noté ça, qui se sont alliés pour coproduire 12 séries par an. 5 pays, c'est le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Islande. Vous voyez bien que ça se réorganise. Vous regardez au niveau mondial, on faisait référence tout à l'heure à Disney, à HBO, ils sont en train de créer leur propre plateforme. Donc on constate véritablement qu'il y a un bouleversement intrinsèque des règles du jeu, du paysage dans son ensemble. L'Europe doit réagir. Une fois encore, je pense que la directive SMA tente de recadrer et oblige ces nouveaux acteurs, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ils ont l'obligation, lorsqu'un opérateur vise intrinsèquement un pays, les règles de ce pays vont devoir s'appliquer, vont pouvoir s'appliquer, et celui-ci devra participer au financement de la création. Donc des nouvelles règles du jeu se mettent en place. Effectivement, pour l'instant, c'est encore l'Eldorado.
Pascal Le Chevalier, vous vouliez intervenir? Pardon, je vais le dire comme ça, je vais me faire beaucoup d'ennemis. Est-ce qu'on peut être aussi bon sur le fond? Est-ce qu'on a les moyens d'être aussi bon quand on regarde nos séries françaises, dont certaines sont excellentes, mais pas toutes, honnêtement? Est-ce qu'on a les moyens de concurrencer sur le fond ces grosses plateformes?
Mais les séries américaines et les films américains ne sont pas bons, et pas tous.
Pas tous, mais il y a une offre qui est pléthorique. C'est peut-être la différence avec nous.
80% du catalogue d'Amazon Prime, ce qui pose d'autres questions.
Pascal?
En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que quand une position est prise sur un marché, c'est difficile d'aller la concurrencer quand on connaît quelques petits ratios économiques. Juste deux chiffres. Netflix, aujourd'hui, dans son chiffre d'affaires global, un chiffre d'affaires qui est supérieur au chiffre du box-office américain aux États-Unis. Plus de 11 milliards de dollars. Netflix investit 8 milliards de dollars dans les contenus.
Ouais.
Netflix investit 1 milliard de dollars par an en R&D. 1 milliard.
C'est quoi?
En recherche et développement.
D'accord.
Donc, sur la technique, les algorithmes, etc. Les interfaces qui font qu'on trouve que tout est simple à utiliser. Netflix dépense plus d'un milliard de dollars en promotion, en marketing. Donc, oui, on peut rêver de se dire on va construire, mais la difficulté à laquelle on va être confronté, et ça c'est le problème aujourd'hui des acteurs européens, c'est d'avoir les moyens pour pouvoir se mettre au niveau, puisque aujourd'hui le client, le consommateur, l'abonné qui paye 10 € a un niveau d'exigence très élevé parce qu'on l'habitue à un standard qui coûte finalement très très cher et qui est mondial.
Sylvain, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue Sylvain, pardon de vous avoir fait patienter si longtemps, on vous écoute.
Il n'y a pas de problème. Par contre, avant de commencer, soignez-vous bien.
Ah, merci, merci beaucoup. Amenez-moi du thé au citron, je vous en supplie.
Je suis pas loin là, je peux arriver.
Ah bah voilà. Alors allez-y.
Non, moi je vais pas changer de la plupart des auditeurs que vous avez eu jusqu'à maintenant. Effectivement, Netflix, pour moi, c'est une très bonne plateforme que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. J'étais en train d'y réfléchir du coup en attendant, et je crois que ça fait un mois et demi. Donc je suis vraiment encore un jeune bébé là-dessus, mais au moins je peux trouver ce que je veux. Je vais confirmer ce qu'un auditeur précédent disait, c'est qu'au même prix qu'une place de cinéma, je peux regarder le nombre de films que je veux, où je veux, et clairement, il n'y a pas photo. Après, au niveau de la musique, vous parliez tout à l'heure de Deezer, YouTube, moi ça fait déjà des années que je l'utilise, et il y a juste pour quelques chanteurs qui vraiment sortent du lot où je vais acheter des CD, mais sinon clairement tout le reste je télécharge quoi.
Ouais, et alors c'est marrant parce que peut-être que vous en faites partie Sylvain, on revient au vintage en fait, donc on achète des vinyles, mais on n'achète plus de CD, on télécharge, donc en fait c'est assez marrant. Est-ce que vous êtes pareil, vous achetez des vinyles ou pas Sylvain?
Non, uniquement CD, mais vraiment sur les quelques chanteurs qui vont sortir du lot. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, Internet, on clique et voilà.
Et merci beaucoup pour ce témoignage, Sylvain, qui vient de découvrir donc la plateforme il y a un mois. Et c'est vrai que y toucher, c'est l'adopter, Pascal Le Chevalier, elle ou une autre, peu importe, mais la facilité. Sylvain nous dit, je regarde ce que je veux, il n'y a plus de vidéoclub en France. Le seul moyen d'aller chercher des films un peu vieux, c'est d'aller les chercher là-dessus, en fait. D'ailleurs, je trouve que ça manque, moi, sur les plateformes.
Un petit clin d'œil à mes amis de Vidéo Future qui, aujourd'hui, se sont transformés, qui sont devenus un fournisseur d'accès à Internet par la fibre dans les régions. Donc, faut pas oublier également qu'aujourd'hui, si les gens peuvent regarder Netflix, c'est parce qu'il y a des infrastructures. Donc, ça touche à un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très complexe, qui est la neutralité du net.
Bien sûr.
C'est-à-dire le fait de dire les tuyaux, aujourd'hui, pour tous ces gens-là, sont gratuits. Et qu'en contrepartie, il n'y a pas de rémunération pour ceux qui les construisent et qui les déploient et qui vous apportent le service à votre domicile, en particulier dans les régions les plus retirées.
Nathalie Sonnac.
Oui, je partage complètement ce point de vue. Et évidemment, il y a la question de la neutralité technologique et puis la question aussi de l'accessibilité. Il faut avoir soit de la fibre, soit de la 4G, et du haut débit, voire du très haut débit, pour pouvoir bénéficier de ces services ou d'un service comme Netflix. Il ne faudrait pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. On a encore quand même la télévision payante. C'est un marché qui est extrêmement important. Hein. C'est plus de 3 milliards d'euros rien que sur le marché national. Le chiffre d'affaires aujourd'hui de la SVOD ou de la vidéo par abonnement, c'est même pas 300 millions. On est à 250 millions d'euros en tout cas pour les chiffres de 2017-2018. Donc on voit effectivement une forte croissance, une forte appétence pour cette plateforme et notamment les plateformes américaines. Mais ça fait très longtemps que nous avons l'habitude de consommer des programmes audiovisuels américains. Dès lors, on a une facilité à entrer dedans. Mais pour autant, Casa del Papel, c'est aussi grâce à Netflix qu'on a pu le découvrir.
J'ai trouvé ça tellement surfait, Casa del Papel. Vous aussi, Pascal?
Ce qui est très très drôle, c'est que Casa del Papel n'avait été acheté par aucune chaîne de télévision ou LIP, des programmes télé.
Je ne l'aurais pas acheté
donc,
non plus.
Il y a un effet de mode qui est très très fort aujourd'hui sur Netflix. Il y a 7-8 ans, vous étiez avec des copains, vous parliez de Netflix, tout le monde vous regardait comme un espèce d'extraterrestre. Et aujourd'hui, dès que vous arrivez dans un dîner, il y en a toujours un qui arrive à placer.
Mais forcément, mais vous savez que les Américains ont un terme maintenant. Tout Netflix, ça veut dire rester chez soi, regarder Netflix, qui est quand même un truc de fou quand on y réfléchit.
C'est un truc de fou et c'est un truc un peu dingue ce que disait Pascal, parce que 1 milliard de dollars dépensés par an en marketing, ça interroge tout de même. On va vers de l'uniformisation. Mmh. Et effectivement, Casa del Papel, est-ce que c'était parce que c'était bien ou est-ce que parce que tous mes copains l'ont vu et donc je suis obligée de le voir? Donc la question de la politique culturelle se pose, est essentielle derrière, qu'il y ait une politique culturelle qu'on a beaucoup évidemment mise en avant, la fameuse exception culturelle française, qui doit passer à l'exception culturelle européenne, mais qui, moi, me semble véritablement indispensable pour accéder à la diversité des programmes que l'on peut avoir.
Les algorithmes nous renvoient à finalement ce qu'on a déjà vu, donc n'élargissent pas plus que ça notre offre culturelle, finalement, Pascal Le Chevalier.
Moi, les algorithmes, j'ai toujours été très très réservé parce que ma tête, elle fonctionne comme elle a envie de fonctionner et c'est pas Netflix qui va m'imposer.
C'est plus compliqué d'aller le chercher, on est tous un peu feignants.
Oui, c'est ça, mais bon, à côté de ça, on reste quand même libre.
Bah, Céline, justement, puisque vous êtes sur le sujet, on vous écoute. Allez-y, Céline, bonsoir.
Donc, bonsoir, moi je suis pas très utilisatrice puisque je n'ai pas la télé, mais à vous écouter, j'ai deux questions. La première, est-ce que ces plateformes payent des impôts en France, hein, à l'époque des Gilets jaunes et des problèmes de territoire? Mmh. Et la deuxième, c'est finalement, à vous écouter là sur la question des droits que j'ai a priori compris, de dire finalement on va tous, enfin les gens regardent toujours la même chose, il n'y a plus de découvertes comme on pouvait avoir avec la télévision quand j'étais plus jeune, et finalement on est formaté à ce que l'algorithme va nous proposer, c'est-à-dire que si on regarde des séries d'un tel type, on aura toujours les mêmes séries qui nous sont proposées, et finalement d'avoir une culture très mainstream, et après d'aller chercher des choses un peu plus dessins animés, enfin voilà, des choses un peu diversifiées, ça a l'air compliqué, mais je ne fréquente aucune plateforme, donc je n'ai pas d'expérience.
Mais vous avez bien perçu, Céline, parce que Nathalie Sonnac, moi je suis assez d'accord avec Céline, l'algorithme nous renvoie, alors oui, on peut aller chercher différemment, mais nous renvoie à ce qu'on a déjà vu, donc nous renvoie dans le même style,
oui,
au fond.
On connaît bien maintenant tous les travaux sur ces questions-là, et les logiques de bubble filter, de bulle d'enfermement dans laquelle on se situe, et dès lors, il va véritablement falloir mettre de la sémantique et des algorithmes qui utilisent de la sémantique qui fait qu'on va réintroduire de la variété. Donc il faut bien que l'humain reprenne la main. Mais néanmoins, cette problématique de la logique d'enfermement, c'est celle des logiques des politiques publiques d'il y a 40 ou 50 ans, qui obligent à ce qu'il y ait une diversité dans les propositions des offres, soit des chaînes de télévision, et aujourd'hui qui s'appellent des plateformes.
Rapidement, pour répondre à la question de Céline, Netflix paye ses impôts ou pas?
Alors Netflix paye la TVA, ne paye pas d'impôts en France, puisque la société est basée aux Pays-Bas.
Donc comme les autres.
Et Netflix va payer cette année, pour la première fois, je crois, la taxe de 2% qui est perçue par le CNC au titre du fonds de soutien qui permet la redistribution au niveau de l'audiovisuel. Mais encore une fois, le principe de Netflix, c'est de dire on survole tous ces sujets-là et si on peut y échapper, mais ils ne sont pas les seuls. Hein.
Ah bah oui, ça, vous m'étonnez qu'ils ne sont pas les seuls, Nathalie Sonnac.
Non, ils ne sont pas les seuls, mais ce n'est pas la raison pour laquelle... Ce qui n'est pas une raison, exactement.
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'avoir su en temps et en heure et avoir laissé faire.
Oui, absolument.
On intervient tardivement et ça c'est tout à fait juste, mais je ne crois pas que ça soit trop tard, donc il vaut mieux tard que jamais. Et une fois encore, lorsque l'on sera dans la phase, et nous entrons dans la phase de transposition de la directive dans la loi de l'audiovisuel, la question de l'obligation d'un paiement par les services de médias audiovisuels à la demande du participer au financement de la création, eh bien Netflix y participera. Mais c'est la symétrie dont on parlait tout à l'heure, fiscale, qui est absolument inadmissible.
J'ai une question subsidiaire avant qu'on retourne au standard. Est-ce qu'on pirate moins dès lors que ces plateformes sont devenues plus accessibles ou pas? Est-ce que le chiffre est tombé dramatiquement ou pas? Pascal Le Chevalier, vous savez ça?
L'ALPA publie des chiffres, les éditeurs s'adressent des congratulations lors des grands colloques, mais la réalité fait que le piratage continue à exister. La difficulté aujourd'hui, c'est la mesure, en particulier sur le streaming, puisque je rappelle que toutes les mesures de piratage avaient surtout été déployées sur les systèmes de téléchargement. On peut extrêmement bien tracer les transports de fichiers, mais sur le streaming, aujourd'hui, vous voyez tout ce que vous voulez.
Tout le monde est sur le streaming maintenant, plus jamais sur les plateformes de téléchargement. C'est ce qu'on m'a dit.
Donc le piratage continue de très très bien se porter.
D'où l'importance du développement d'une offre légale, accessible, à des prix, comme le disaient les téléspectateurs, les auditeurs depuis tout à l'heure, à des prix qui soient accessibles par le plus grand nombre.
Et d'où casser aussi cette fameuse chronologie des médias qui est un peu notre spécificité, parce que, et on comprend très bien ce que ça veut dire pour que les films puissent vivre leur vie indépendamment des plateformes, mais c'est vrai qu'on vit une époque aujourd'hui où attendre 34 mois, alors maintenant c'est 17, c'est évidemment trop long avant de voir un film, non, Nathalie Sonnac?
Oui, alors les derniers accords dataient de 2009 et là, enfin, nous avons signé le dernier, enfin en tout cas, les acteurs ont signé avec les organisations professionnelles. Alors on a des avancées hein, qui sont effectivement 6 mois après la sortie, un film qui fait moins de 100 000 entrées va pouvoir avancer sa fenêtre d'exploitation et avec un dégel des droits pour la VOD. Mais on voit bien qu'on est bien à la limite de l'exercice et je crois que d'ores et déjà, il faut réfléchir à une nouvelle chronologie et surtout inciter ces nouveaux acteurs à participer au financement de la création, à investir sur les marchés locaux. C'est ça le plus important, c'est-à-dire que rendre ces acteurs vertueux et qui participent au financement de la création, qu'ils injectent leur fameux investissement, peut-être plutôt que de le mettre dans le marketing, le mettre dans soit la qualité des œuvres, la production de nouvelles œuvres.
Et on peut convaincre un mastodonte à la Netflix d'aider à financer un film français, par exemple.
C'est toujours compliqué de convaincre quelqu'un de payer des impôts, de participer au financement de la création, c'est beaucoup plus compliqué. Mais nous, il y a ce qu'on veut aussi en matière de politique culturelle. Et ce que l'on souhaite aussi, c'est une exception culturelle européenne, c'est-à-dire conserver cette promotion des œuvres, cette diversité des œuvres, cette diversité des origines des œuvres et des genres d'œuvres. On n'a pas tous envie de regarder soit de documentaires animaliers, soit du film mainstream.
Elsa, ça a un coût. Elsa, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de votre appel, Elsa, on vous écoute.
Donc, le témoignage se situe au niveau de la consommation, en quelque sorte, de Netflix. Donc, on est une famille qui regardons pas nécessairement la télé. Et donc, on regarde moyennement la télévision. Et on consomme en allant au cinéma. Et donc, Netflix est venu se rajouter en plus. C'est-à-dire qu'au départ, les enfants avaient accès à Netflix par les codes de copains à eux. Et donc, je pensais que c'était une espèce de piratage, qu'on pouvait partager les codes, voilà. Et j'ai commencé à m'intéresser à voir ce qu'ils regardaient, à avoir aussi un accès à ce qu'ils regardaient. Donc, par exemple, mon fils de 12 ans m'a présenté Walking Dead. Vous voyez que vous voyez un petit peu ce à quoi peuvent avoir accès les enfants dans notre dos. Mm-hmm. Donc, du coup, j'ai commencé à regarder avec lui, à faire de l'analyse, plus ou moins d'images, en me disant, ça, tu vois, tu peux y avoir accès, ça, tu ne peux pas, c'est trop violent, voilà. Et ensuite, nous-mêmes, nous sommes abonnés. Et donc, comment est-ce qu'on consomme Netflix? Eh bien, on le consomme en famille. Et c'est-à-dire que les enfants nous proposent des séries que nous regardons avec eux. Chose que nous ne faisions plus, parce que si on regardait un film qui ne les intéressait pas, ils allaient dans leur chambre. Mmh. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Elsa. On parlait de pratiques tout à l'heure, Nathalie Sonnac. Effectivement, les pratiques ont changé. Ce qui change aussi, c'est que désormais, les séries sont proposées très rarement d'un épisode à l'autre. Ça existe, y compris sur Netflix, mais finalement pas tant que ça. Donc, on fait du binge-watching tous en famille, en fait. Et ça aussi, ça a changé nos pratiques, finalement.
Ça a changé la pratique. Ça demande aussi une production incroyable. Parce que lorsque nous diffusions, enfin, lorsque, en tout cas, les éditeurs diffusaient une fois par semaine un épisode, on a l'impression que quand on raconte ça, on est un véritable dinosaure.
C'est
parce
vrai.
Qu'on imagine
mais
même
on l'est,
pas
hein,
que ça
vous rassure
soit possible.
Tout de suite.
Merci.
Moi aussi.
Effectivement, aujourd'hui, ça oblige ces acteurs-là à investir beaucoup plus et avec une récupérer des droits immédiatement, ce qui est aussi compliqué, hein, ce qui rend compliqué finalement cette économie.
Mais Pascal Le Chevalier, est-ce que ça nous oblige pas effectivement nous aussi à produire très différemment? Quand on produit une série américaine, on produit effectivement d'un coup, en fait, on donne 15 épisodes. Lorsqu'on produit une série française, c'est beaucoup plus long. Les saisons d'ailleurs pour s'additionner, y compris dans les très bonnes séries, c'est pas forcément tous les ans, c'est parfois tous les 2 ans, voire tous les 3 ans. Est-ce qu'on n'est pas obligé de revoir ça aussi si on veut être compétitif?
C'est très récent parce qu'aux États-Unis à l'origine, alors quand on prend M6 et TF1 qui étaient les premiers diffuseurs des grandes sagas de séries américaines, je pense à Lost, à Desperate Housewives, etc. C'était des séries qui étaient produites aux États-Unis sur des cycles très très longs, au contraire, puisqu'aux États-Unis.
Mais c'était tous les ans quand même, non? Saison par an?
C'était une saison par an,
ça,
avec un an de décalage.
Ah ouais.
Et aux États-Unis, ils diffusaient une saison entière, 24 épisodes. Ouais. C'était diffusé de septembre à mai,
oui,
avec deux hiatus.
Oui,
en France, on diffusait 2 épisodes par soirée, ce qui fait que les 24 épisodes, vous les aviez en 8-9 semaines.
Ouais.
Donc on bingeait déjà à l'époque.
Ouais.
Aujourd'hui...
Aux États-Unis, sur les networks, en fait, c'est toujours un par semaine. Dès qu'on est sur les plateformes ou sur les chaînes payantes, on n'est plus
raccourci.
Un par semaine.
C'est raccourci, évidemment. Parce qu'il y a un atout dont on n'a pas parlé, c'est que toutes ces plateformes, et c'est pour ça aussi qu'elles ont un très 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 grand succès aux États-Unis, qui a quand même été l'amplificateur pour le reste du monde, c'est qu'il n'y a pas de pub.
Eh oui.
Et donc là, forcément, aux États-Unis, vous êtes noyé dans la pub pour une série. Un épisode de 42 minutes, vous avez quasiment 20 minutes de pub.
Oui, c'est
pour
une
faire
heure en fait. C'est bah une heure et c'est 42 minutes de série en vrai. Donc,
ouais. Et 20 minutes de pub. Là, aujourd'hui, vous êtes libre, débarrassé de la pub. Et c'est pour ça que vous payez l'abonnement.
Mais alors, est-ce qu'il faudrait nous qu'on produise différemment quand même ou pas aujourd'hui?
Ça a commencé. Aujourd'hui, vous avez plein de producteurs français qui commencent à travailler avec Netflix. On va citer Fédération qui a fait Marseille, même si ça a pété le succès qu'on escomptait. Et donc, les modes d'écriture, de narration, de storytelling ont complètement changé et évoluent aussi parce qu'aujourd'hui, on récupère de la data et on sait que avec ces données-là, on peut modifier le sens de l'écriture, mais comme un écrivain qui, quand il rencontre au salon du livre ses lecteurs, voit le profil des gens qui viennent signer et forcément ça le fait réfléchir sur la façon qu'il a d'écrire.
Et puis il y a des moyens aussi, forcément des armées d'auteurs, etc., qui sont évidemment pas les moyens qu'on a nous aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute Emmanuel qui nous appelle de l'Aveyron. Bonsoir Emmanuel.
Oui, bonsoir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je vais pas les répéter sur l'intérêt économique d'un abonnement à Netflix par rapport à une place de cinéma, ce genre de choses. Moi, je voulais juste témoigner du fait que notre famille habite dans un village de 40 habitants, où il y a rien d'autre que quelques habitants, donc pas de commerce, évidemment pas de culture, etc. La première
Emmanuel, sur la fiche qu'on m'a laissée, il y a 41, ça veut dire que quelqu'un est déjà parti pendant les 20 minutes que vous avez entendu.
Non, mais, quand je dis 40 en plus, peut-être que je me trompe, peut-être 45.
Non, mais je vous en prie, allez-y.
Il y a 20 ans, je ne vais pas vous raconter ma vie, la fin de la mission arrive, mais il y a 20 ans, avec mon épouse, on était très cinéphiles, on est toujours très cinéphiles, on habitait le centre de Montpellier. On était des fanatiques des cinémas d'auteur, on sortait 4 fois par semaine pour aller au cinéma. On a quitté cette vie-là, pour des raisons économiques, parce qu'acheter une maison c'était moins cher à la campagne, pour des raisons écologiques, etc. Bref, on se retrouve 20 ans plus tard, dans un endroit où les services nous ont complètement abandonnés. Le bureau de poste est parti, tout est parti. Résultat, qu'est-ce qui nous reste? Heureusement, une bonne ligne Internet. Et donc, qu'est-ce qui nous reste? Netflix, Deezer, Amazon, Airbnb, parce qu'on va commencer à faire des chambres d'hôtes. Ça nous sauve la vie, en fait.
Mais est-ce que vous le regrettez, au fond, Emmanuel? Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous vous dites, ce qui est formidable, c'est que je peux avoir accès à ça, même si j'habite loin, dans mon village de 40 habitants, ou est-ce que vous regrettez quand même?
Alors moi, je le regrette pas du tout. C'est peut-être très pragmatique. Peut-être que j'ai vieilli, certainement j'ai vieilli 25 ans après, mais je le regrette pas du tout. Ce que je regrette, c'est que peut-être les puissances publiques ou des puissances économiques se sont pas battues un peu plus pour préserver les services. Alors ça rejoint peut-être les thématiques économiques en ce moment,
oui,
les
gilets jaunes,
mais se sont pas battus un peu plus pour que en campagne, comme des endroits comme chez nous, il y ait encore des cinémas accessibles, il y a encore des petits commerces accessibles, il y a encore tout ça. Ça n'est plus là, ça a disparu. On a complètement été laissés livrés à nous-mêmes. Maintenant qu'on voilà, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je serais ravi de. Alors Netflix, on a été abonné probablement le premier jour de sa disponibilité en France. Au début, le catalogue était tragique, tragiquement vide.
Enfin, oui, c'est vrai.
C'était terrible.
Ça a beaucoup bougé.
Ouais. Et là, en ce moment, voilà, on a vu le dernier frère Cohen il y a quelques jours. Roma il y a deux jours. Enfin, on est ravi. On est vraiment ravi. Je voudrais juste finir sur une touche un peu. On est aussi un peu trop, à mon goût, culpabilisé. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler dans les médias des vilaines grandes compagnies américaines, Netflix, Amazon, etc. Et donc on est un peu culpabilisé en tant qu'utilisateur de ces services-là. C'est des services qui se sont mis à la place d'un vide qui a été laissé, qui a été politiquement laissé. Ce désert-là, il existait avant, il s'est mis en place il y a une vingtaine d'années. Nous, on l'a vu arriver en 20 ans.
Et vous avez vu fermer la dernière salle de ciné, par exemple, j'imagine, Emmanuel, en fait.
Exactement. La salle de ciné la plus proche pour nous, c'est 7 euros la place. Les films ne sont pas en VO. Et nous, on a jamais vu autre chose que de la VO. Et comme disait un de vos interlocuteurs, il n'y a pas de pub. Moi, je retrouve, en fait, sur Netflix, ça va vous faire hurler, peut-être. Alors, sauf la programmation qui, effectivement, je suis tout à fait d'accord, très, très nord-américaine, très, voilà. Mais je retrouve pas de pub, la VO. C'est-à-dire, je retrouve des choses qui, pour moi, étaient des critères indispensables du cinéma que j'aimais il y a 25 ans. Dans les cinémas d'auteur de Montpellier.
Merci beaucoup Emmanuel pour ce témoignage qui sera d'ailleurs celui de la conclusion. Nathalie Sonnac, juste un mot, ne pas culpabiliser effectivement en disant aux gens mais attention, c'est mal en fait d'aller sur ces plateformes-là. Le tout c'est de garder un œil sur ce qui est aussi traditionnel finalement.
Non mais ne jamais culpabiliser, c'est des services qui sont formidables. Derrière il y a des économies, il y a des technologies et effectivement ça pose de nouvelles questions. Ça pose d'autres questions et il faut effectivement que la régulation, la réglementation s'adapte et qu'une nouvelle politique culturelle prennent bien en considération ces nouveaux acteurs.
Et merci d'avoir soulevé ensemble toutes ces questions. Merci pour vos nombreux appels, comme d'habitude, portez-vous bien.